Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'Hebdo JV numéro 11. Je suis accompagné de Thibaut. Comment ça va, Thibaut?
Ça va super, on est vendredi, c'est le week-end, tout va bien.
Bah écoute, oui, tout va bien, même si évidemment les gens de ma génération, vous le voyez ici sur la poitrine, sont extrêmement touchés, sont tous en deuil par le décès d'Akira Toriyama, auquel je vais rendre un hommage au cours de cette émission. Il se peut d'ailleurs qu'on fasse une émission dédiée à Akira Toriyama. J'en parlerai à Mathieu parce que je pense qu'il est très bien placé pour ça. En tout cas, voilà, c'est une journée assez compliquée de ce point de vue-là. Toi, comment t'as vécu ce décès en toute franchise? Parce que c'est pas ta génération.
Non, mais moi, j'ai l'impression que je suis vraiment...
Non, mais il n'y a pas de...
Tu vois, pas les gris, mais genre le... Moi, en vrai, bah, j'ai vu la news ce matin un peu comme tout le monde, sachant que ça fait une semaine hein, qu'il est décédé, le monsieur, mais c'est, ouais. Ça a été rendu public que maintenant. Et bah, j'ai vu la news, je me suis dit, merde, bah, y a... Mais je le voyais, tu vois, dans ma tête, il avait 85 ans, 90 ans. Quand j'ai vu 68, je me suis dit, putain, il est pas si vieux que ça, au final. Bah, je me suis dit, merde, c'est un grand monsieur qui s'en va, quoi. Mais tu vois, moi, j'ai aucun affect personnel, en fait, avec Dragon Ball ou Akira Toriyama. Donc, moi, je me suis juste dit, c'est un grand artiste qui s'en va, quoi. Factuellement, oui. Tu vois, je me suis juste dit ça.
Bien sûr,
dit,
non, mais bien
ça,
sûr.
Tu vois, par exemple, Mathieu, je sais que lui, je savais qu'il était fan. Je me suis dit, lui, ou même toi, j'ai appris récemment que t'étais un grand fan de Dragon Ball, je pensais pas, tu vois. Bah, ça va, je sais que ça a marqué des gens, quoi, parce qu'il a marqué des gens avec son œuvre, mais personnellement, moi, ça me laissait presque indifférent, quoi. Et j'ai l'impression d'être en pierre, hein, de dire ça, mais c'est juste que c'est pas...
Non, mais c'est pas en pierre, je suis désolé, moi, si, malheureusement, si demain, je lui souhaite pas, le créateur de One Piece venait à décéder, pour moi, pareil, c'est pas ma génération, j'ai jamais regardé ni lu One Piece. Donc forcément, on est tous plus ou moins sensibles. Il y en a quand Michael Jackson est décédé. Nous, ça a été une perte immense, mais il y a plein de gens qui n'écoutaient pas Michael Jackson et pour qui ça a été
une personnalité qui décède. Moi, j'écoutais Michael Jackson et pareil, ça m'a pas fait... Johnny Hallyday, pareil. Alors, bon, je suis pas hyper fan de Johnny Hallyday, mais pareil, tu vois. J'avais l'impression que c'était jour de deuil national. J'étais bon, bah...
Fiché, après, mais... oui, pour l'histoire de la musique en France, oui, ça sera pareil pour Jul un jour. En tout cas, moi, j'ai grandi, j'ai 41 ans, j'ai grandi, comme je pense pas mal d'entre vous, avec le Club Dorothée. Mettez des cœurs dans le chat pour Monsieur Toriyama, s'il vous plaît, pour Toriyama-san qui nous a quittés il y a une semaine. Donc j'ai grandi, j'ai même connu Dorothée sur Antenne 2 à l'époque, qui était le France 2 old school. J'ai grandi ensuite avec le Club Dorothée qui m'a accompagné toute ma jeunesse, évidemment. Et pas plus tard que hier, je regardais encore des Blu-ray de Saint Seiya. À quel point ces mangas m'ont accompagné, m'ont matrixé et m'ont vraiment plu. Alors que je cherche un autre objet à vous présenter parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer.
Surtout, j'ai découvert assez récemment pourquoi est-ce qu'on a eu ces mangas en France. Tu sais pourquoi?
Bah parce qu'il y avait plus de production et qu'elles étaient trop chères. En fait, le peu qu'il y avait était trop cher. Et
ouais, mais tu sais qu'il y avait les productions européennes?
Non, c'était qui?
Un vieil ennemi à toi, Berlusconi.
Ah oui.
C'est Berlusconi qui avait toutes les productions européennes et du coup, il avait la 5.
C'est vrai.
Et du coup, bah, le AB Production était avec TF1. C'est ça, hein, c'est TF1.
Ouais. Oui, exactement.
Ils ont cherché d'autres œuvres. Et il y avait les œuvres japonaises qui étaient méconnues en Europe et pas très chères. Et du coup, bah, ils ont décidé.
On avait déjà eu des œuvres japonaises avec Goldorak, par exemple, et des œuvres américaines avec Mask et tout. Mais vraiment, c'est Dorothée qui a démocratisé ça. Club Dorothée, c'était un truc super cool dans le sens où tu avais une bande d'animateurs qui était super sympa. Dorothée, la regrettée Ariane, Jackie, le regretté Corbier, Patrick, etc. Enfin, donc tu avais tout, une bande de 4 ou 5 personnes auxquelles après, ils ont créé toute une constellation de sitcom maison. Certains existent toujours, comme Les Mystères de l'Amour, qui est la continuité d'Hélène et les Garçons, qui elle-même est un spin-off de Premier Baiser. Donc, voilà, Corbier, etc. Ouais, donc c'était toute une époque. Et donc, tu avais un dessin animé, puis ces animateurs qui parlaient, qui faisaient des sketchs, qui nous ambiançaient. Et après les dessins animés, il y avait les sitcoms. Donc, nous, on regardait ça religieusement après l'école ou le mercredi matin. Sauf que moi, le mercredi matin... Moi, j'avais école, en fait. Nous, je sais qu'en France, vous n'avez pas école le mercredi du tout et vous avez école le samedi matin.
Ça dépend. Pendant longtemps, j'avais cours le mercredi et le samedi.
Voilà. Ben non, nous, on n'avait pas du tout cours le samedi. Par contre, on avait cours le samedi matin, le mercredi matin. Du coup, j'enregistrais le Club Dorothée. Et du coup, j'ai voué une passion pour. Ma première passion, j'avoue que c'était Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. C'était vraiment mon premier grand amour, vraiment au niveau dessin animé. Parce que Dragon Ball, j'aimais beaucoup, tu vois, mais ça me faisait rire. C'était un peu. Saint Seiya était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tragique, tu vois. Enfin, c'était un peu plus mature que Dragon Ball le premier. Et puis Dragon Ball a évolué en Dragon Ball Z et tout. Et c'est vraiment devenu une vraie passion.
Mais j'ai une
Parce que.
question. Est-ce que toi, du
Oui?
coup, tu regardais que les animes, du coup? Enfin, Dragon Ball, pour toi, c'était
Alors,
l'anime surtout.
très
Non?
bonne question. Parce qu'en fait, en France, on ne savait pas. C'est arrivé que, y a commencé à avoir des excellents jeux Dragon Ball qui sont sortis. Et je pense que ce qui a changé, c'est le précédent jeu. En fait, ça, c'est Dragon Ball 3, en fait. Dragon Ball Z 3. Je crois que c'est Densetsu, me semble-t-il. Voilà, donc. Et en fait, il y a eu le 2 qui est sorti. Et quand Dragon Ball Z 2 est sorti, ça a été une espèce de claque, en fait. C'était parce qu'on était en pleine folie du jeu de baston. Du coup, là, on avait un jeu de baston Dragon Ball, mais avec des Hadoken énormes qui étaient voilà donc Super Butoden avant que je me j'avais peur de me tromper donc Super
Ah,
Butoden
donc les
2.
Hadoken de Street, en fait, c'était avant que le Kamehameha
Non, le
de...
Kamehameha a été inventé avant et je pense que le Hadoken reprend
Oui,
le
mais je veux dire,
Kamehameha.
dans les cours de récré, qu'est-ce qui arrivait avant?
C'était la même période honnêtement.
Parce que
Tu
tu
faisais
vois,
ça
maintenant,
et
quand tu me dis ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai toujours vu le Hadoken dans Street comme étant genre un hommage à Dragon Ball, tu vois.
Oui, mais c'est sûrement parce que Street Fighter 2 est sorti, enfin Street Fighter est sorti après Dragon Ball. Donc en manga. Mais nous, si tu veux,
Oui.
ça arrivait tous au même moment. Et Dragon Ball est devenu archi populaire. Street Fighter 2 était très populaire. Mais Dragon Ball, c'était vraiment un phénomène de société. Et donc du coup, alors malheureusement, j'ai plus mon épisode de Super Butoden 2, donc la légende Saiyan chez nous. Parce que je l'ai revendu pour acheter le 3, qui est moins bon parce qu'il n'y a pas de mode histoire. Par contre, j'étais complètement fan de la notice. Quel bonheur d'avoir des notices à l'époque en couleur, avec les coups et tout. Ça, c'est quelque chose que je regrette énormément. Voilà. Et tu disais ça, donc les magazines de jeux vidéo ont commencé à beaucoup parler de Dragon Ball, non seulement pour les jeux vidéo Dragon Ball, mais aussi par rapport à l'animé ou au manga. Et donc, on découvre qu'il y a une bande dessinée Dragon Ball. Elle arrive en France, et ça va être un des premiers mangas. Et ça, c'est le tout premier tirage. C'est le premier volume qu'on a acheté avec mon frère. Je vais te dire, alors, ce qui était fou, c'est qu'ils se sont dit, ouais, les Français, ils vont pas pouvoir. Donc, c'est un manga qui date de 84 au Japon, 94 chez nous. Et les Français, ils vont pas aimer lire à l'envers. Donc, toute cette série-là de mangas, la première édition Glénat, elle est éditée comme un livre français. Donc, tout est à l'envers, en fait. Parce que normalement, le japonais se
Oui,
lit de l'autre côté.
tout est version à
Voilà,
l'européenne,
voilà.
quoi. Oui.
Et en fait, nous, on avait grave de retard. Et puis, d'un coup, dans le manga, nous, on était à Freezer ou un truc comme ça, ils nous parlent de l'arc Majin Buu. Et ils nous disent, ouais, il y a le manga qui est dispo en Japon, le tome 37 ou 38 et tout. Et là, du coup, en fait, je vois une pub dans un magazine pour un magasin à Nice. Rico, tu me dis s'il existe toujours, qui s'appelle Akira, et qui vend des mangas et des figurines. Du coup, on y va avec mon frère et ma mère. Du coup, on a pu prendre. On a acheté tous les mangas de l'Arc-Bou, il y en a 4 ou 5. Je vous ai sorti le dernier, là aussi, c'est vraiment d'époque. Hein, c'est vraiment.
Ça se voit, il est jauni le
Il
papier.
est jaune, tout est jauni à l'intérieur. Mais c'est d'époque et j'adore la couverture, je la trouve toujours aussi stylée. Elle est de circonstance. C'est aussi l'époque. Alors oui, il y a d'autres jeux vidéo qui sont sortis depuis. Celui-là, sur PlayStation, je sais qu'il n'est pas aimé, moi je l'avais beaucoup aimé. Celui-là, peut-être, c'est mon préféré ever, Budokai Tenkaichi 3, c'est pour ça qu'on attend tous la suite. Mais c'est aussi la grande époque. Alors ça, c'est du maison, tu vois, ces trucs, des collages maison de posters. Tu vois, ça a jauni de fou. Ça, c'est un dessin que j'avais fait et tout.
Oh la
Et
vache.
du coup, en fait, c'est que des cartes. Tu vois, en plus, j'avais trié avec les collections et tout. Voilà, et ça, bon, après, tout ça ne m'appartient pas. Enfin, et c'est la copropriété avec mon frère. Et je suis super content d'avoir toutes ces cartes bien conservées. Ça, c'est toute notre enfance. Tu vois, genre, Je dis toujours à mon frère, si jamais il m'arrive un truc, il faut que tu t'en prennes soin, que tu transmettes aux enfants et tout, c'est important. Et voilà, donc ouais, je suis très touché. Merci pour le don, Old Boy, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, de 10 francs suisses, d'ailleurs, mon frère habite en Suisse, donc ça tombe très bien. Akira Toriyama, c'est aussi...
C'est ton frère qui a fait le don, tu le sais pas, c'est ton frère.
Old Boy, voilà, il se fait des dons comme ça, après, c'est pour me rappeler que je dois faire un cadeau à sa fille. C'est aussi, il est dans le jeu vidéo, puisqu'il a dessiné tous les... C'est lui le character design de la série Dragon Quest, une des plus grandes séries de JRPG de l'histoire du jeu vidéo. Et aussi... C'est le caractère design de ce jeu extraordinaire dont je... Hein ?
C'est pas Shantae, ça ?
Non, ça, c'est Chrono Trigger. Voilà, donc, Chrono Trigger, extraordinaire, voilà, un des meilleurs RPG. On sent, on voit immédiatement la patte, si vous voyez, là, on voit immédiatement... Il a une patte Toriyama qu'on a retrouvée dans Doctor Slump.
J'allais dire, Dragon Quest, tu vois, sans savoir que c'était Toriyama à l'époque, ça faisait j'ai direct pensé que c'était lui, tu vois. Pareil pour Blue Dragon, le jeu qui est sorti sur Xbox. Mais là, pour le coup, tu vois, en blind test, j'aurais misé à côté, tu vois. Je trouve que ça fait moins...
Bah parce que là, c'est un art, en fait. C'est pas un... Enfin, si tu vois d'autres arts du jeu... Attends, je vais te sortir la jaquette de Chrono Trigger. D'ailleurs, putain, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Je rêverais de le voir adapté
en remake,
quoi, ouais. Vraiment un vrai remake en HD 2D. Ah là, je vais te sortir le... l'artwork officiel, tu peux pas te tromper, je vais te le balancer.
Je crois que j'y ai joué sur Android, ils avaient sorti je crois le jeu en...
Mais moi je l'ai sur DS.
Je crois que c'est la version DS qui avait été portée sur mobile.
C'est possible, regarde, là tu vois l'écran.
Ouais, là oui, ben, en fait la coupe de cheveux.
Putain, il est sur Steam en plus le jeu.
On dirait Bulma là-dedans, non?
Ouais, on dirait Bulma, on dirait... Enfin, de toute façon, ils ont tous... Elle, on dirait... comment elle s'appelle celle qui habite avec Tortue Géniale et tout. Ah, j'ai oublié son nom. Merde, mais bon... celle qui, quand elle éternue, change de personnalité et tout. Voilà, donc ça, c'était Toriyama-san, qu'on voit ici à l'écran. Merci. Moi, je veux vraiment dire un immense merci à Toriyama-san pour tout ce qu'il a apporté. Je pense que le torrent d'hommage qu'on voit aujourd'hui est proportionnel au talent et à l'affect qu'on a pour Akira Toriyama, qui est un des plus grands artistes de l'histoire, en fait. J'ai pas peur des mots. C'est quelqu'un qui a bouleversé la culture. Parce que... et non seulement japonaise, mais mondiale. On serait pas là où on en est aujourd'hui, beaucoup de gens de ma génération, sans Dragon Ball. Et j'ai vu des tonnes d'artistes, et les Américains, ils se sont pris un peu plus tard, mais c'est aussi un phénomène mondial, Dragon Ball. C'est quelque chose c'est quelqu'un qui a bouleversé la culture mondiale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a... Il y a eu un avant et un après Dragon Ball, et donc moi, je veux vraiment le remercier. Merci du fond du cœur à Monsieur Toriyama. Arigato Toriyama-san, merci beaucoup. On portera Dragon Ball toujours dans notre cœur. Et voilà, je vois le nombre de PP avec des personnages de Dragon Ball, donc Funky Monkey par exemple, avec un Gohan Super Saiyajin 2 de toute beauté. Voilà, donc on a vécu des moments extraordinaires, on a kiffé ce manga, on a rigolé, on a pleuré, on a été stressé, enfin... Ce manga nous en a fait voir de toutes les couleurs et je pense que c'est une pièce absolument incontournable de l'histoire du manga. Il y a des arcs exceptionnels. Je pense que l'arc Namek-Freezer, il est... en termes de dramaturgie, d'intensité, de combat, c'est juste de retournement de situation. C'est du 20 sur 20. Donc merci Toriyama-san pour tout. Thibaut, on va passer au second sujet.
Je sais qu'en France, il avait été fait chevalier des arts et des lettres.
Bah, mais moi ça me choque pas en fait, ça me choque pas finalement.
Du coup, il a eu le droit à un hommage du gouvernement français aujourd'hui. Je précise, ouais. Un hommage parce que les gens disent, ils remercient le mec qui vient de décéder pour son travail et sa vie, et des gens pensent que c'est de la récupération politique alors que c'est juste un bête message de.
Non, bah non, bah c'est. Enfin, dans ces moments-là, je pense qu'il faut mettre de côté toutes les rivalités ou les conneries. Je pense que c'est beaucoup plus sain d'être dans le recueillement et le respect, en fait, déjà des uns des autres. Je pense que Voilà, c'est le plus important. Voilà. On va passer au deuxième sujet, Thibaut, qui
Ouais,
est
et je vois juste, Souleymane, il dit, même Attal a tweeté, mais d'un côté, Attal et Macron, ils ont même pas 40 ans, je crois, les deux. Donc en fait, c'est la
Si,
génération.
si, 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 il a même pas 40 ans. Oui, il a 45 ans, Macron.
Ouais, mais c'est la génération Dragon Ball.
Oui, c'est l'âge un peu plus. Alors, et attention, ma sœur, c'était l'âge. Ma sœur à l'âge de Macron, je crois qu'il est 77. Et ils sont passés à côté, tu vois. Enfin, il y a très peu de
Ah ouais?
qui sont passés à côté, ouais. Donc, voilà. En tout cas, cette semaine, on a eu aussi le Xbox Partners Preview. Toi, tu l'as vu. Moi, je suis un peu passé à côté. Je suis désolé, j'étais un peu
Tu
occupé. On
disais
a
que
eu des.
c'était un truc de fou.
Non, mais après, moi, c'est pas un
Bah,
truc de fou.
on l'a
Mais il y a
couvert
pas
dev
mal de
chez
bons
Mehdi,
jeux. Ouais.
c'était jeudi. Mais c'était hier en fait. Attendez quel
C'était
jour?
hier déjà? Non, c'était le 5 mars, je crois. Ou le 6? Le 6 mars. Ouais, c'était il y a 2 jours, en fait. Il y a 2 jours.
Ouais.
Parce qu'hier, hier, on c'était Capcom, donc avant-hier.
Ah oui, putain, bah, c'était il y a 2 jours,
Donc on
pardon.
a eu Kunitsu Gami Path of the Goddess, qu'on a revu chez Capcom, le nouveau jeu Capcom
C'est
qui
ça.
arrivera dans le Game Pass, qui est très chelou. On a eu Tales of Kenzera, Zao. On a eu The First Berserker. Kazan et on a eu Frostpunk 2 et voilà et Creatures of Ava et
Ouais.
Unknown 9 aussi et Sleight of Hand The Alters Roblox Sinking City 2 FF14 Online très attendu Stalkers Legends of the Zone Trilogy Monster Jam Slowdown Persona 3 Reload donc on a eu pas mal de jeux au final qu'est-ce que ça nous montre que quasiment tous ces jeux c'est des indés ou des double A.
Ouais.
Même plus proche de l'indé.
Plus proche
Qu'est-ce
double A, je dirais.
que. Ouais, du petit double A, on va dire. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je trouve que c'est bien, en fait, de mettre en avant. Finalement, je me demande, dans la conjoncture actuelle, et on va parler de la situation qu'on juge avec Thibaut et Mehdi en privé, Mehdi en a fait une émission aussi assez préoccupante de Final Fantasy VII Rebirth, malheureusement. Justement, de fait de miser sur des jeux. Double A comme ça, j'aurais dû vous télécharger les trailers, mais c'est pas grave. De miser sur des double A, est-ce que c'est pas la bonne idée en fait? Tu vois, de miser sur des jeux
Bah
finalement
si, parce que
qui
tu vois,
innovent.
en fait c'est simple, c'est que les triple A, c'est des projets tellement gros que ça n'a pas le droit d'avoir un échec. Donc dans leur construction, mécaniquement, ils sont taillés pour ne pas avoir d'échec, donc ils sont assez consensuels, on va dire. Et c'est rare, y en a, hein, mais c'est rare en fait qu'ils prennent des risques. Et du coup, les projets plus petits, tu peux prendre des risques artistiques parce que tu sais que tu as moins ce couteau sous la gorge pour faire un projet. Tu vois, par exemple, Capcom, Path of the Goddess, on sait que le jeu, il est déjà dans le Game Pass, avant même qu'il sorte, on le sait. Tu peux
Je vais vous
dire
mettre
que
des images de Path of the Goddess, comme
vu le
ça.
jeu, tu penses qu'il a coûté moins cher qu'un Monster Hunter, un Resident Evil ou un Dragon's Dogma, par exemple. Et donc,
Ouais.
tu sens que les mecs, ils ont pu se lâcher un peu au niveau du jeu, quoi. Et ils peuvent prendre des risques que ne peuvent pas les équipes de Capcom qui sont sur les plus gros jeux, quoi.
Je vous mets des images de Path of the Goddess, hein, donc qu'on a revu au Capcom Showcase hier. Un jeu particulier quand même. Je suis aussi hypé que circonspect face à ce Path of the Goddess, qui a une direction artistique très sympathique, je trouve, qui sort vraiment du lot. Immédiatement, tu vois, moi j'aime bien les jeux, au premier regard, je sais à quoi j'ai affaire, avec la palette de couleurs, le style visuel et tout. Par contre, j'ai quand même l'impression d'un jeu très bordélique, et j'ai du mal à comprendre un peu le flow du jeu. Ça, il faudra certainement le prendre en main. Mais voilà, des fois j'ai un peu peur, parce que tu vois, par exemple, moi, les Monster Hunter, je trouve ça très bordélique, personnellement. Mais
Au niveau
je
de
sais pas.
la TH ou au niveau de l'écran?
Non, pas du tout. Au niveau de, tu vois, de ce qu'il y a à faire, de comment il faut le faire et tout. Tu vois, des fois j'ai l'impression que le trop, c'est un peu l'ennemi du bien. Et après, moi, je trouve que c'est cool, tu vois, d'avoir ce genre de proposition. Et il y en a d'autres, hein, évidemment. Et de toute façon, c'est pas. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment des situations de win-win-win. C'est-à-dire que Capcom, il est gagnant parce que ça permet de leur financer un nouveau projet qui peut potentiellement leur permettre, tu vois, de tester tu vois, sur ce genre de projet. C'est avec ça que tu testes un peu des nouvelles mécaniques, des nouveaux gimmicks de gameplay, des nouvelles. Artistiquement, tu tentes un peu des trucs. Donc, ça permet, tu vois, à ces projets-là qui sont particuliers et qui peut-être auront certainement du mal à trouver leur public. Ça permet à Xbox d'avoir une cartouche pour le Game Pass et aux consommateurs d'avoir un nouveau jeu sur le Game Pass. Donc pour moi, c'est des situations de win-win-win. Je sais pas si tu partages
Ouais,
ce point de vue.
je suis d'accord. Enfin, je mettrais un bémol, c'est que on attend de voir le jeu, parce que si ça se trouve, c'est une daube absolue, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est.
Peut-être. Le commentaire, il est incroyable.
Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a une grosse patte de Okami, je sais pas pourquoi. Tu sais.
Bah oui, parce que c'est un petit peu tu sais, le côté Japon mystique, on va dire. Donc il y a un petit peu de ça. Moi je trouve, ouais, y a un peu de ça, il y a un peu de Devil May Cry, un peu de Monster Hunter, il y a un petit peu de tout ça. Donc on retrouve. Après, il a aussi, je trouve, malgré tout, il a sa personnalité. Immédiatement, je trouve, dans la direction artistique, il a sa personnalité. J'ai envie de voir si c'est. J'arrive pas trop à comprendre si c'est un jeu d'aventure, un beat'em all, un RPG, ou si c'est un peu tout ça mélangé. Mais voilà, après, je sais pas si vous aimez ça. Alors oui, le sueur nous dit quelque chose d'intéressant. Il n'y a que des double A chez Xbox. C'est vrai, enfin, il n'y a pas que des double A, mais il y a principalement des double A. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que de toute façon, les éditeurs tiers sortent leurs jeux maintenant quasiment partout? Donc tu les as, les jeux éditeurs tiers. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des jeux qui sont peut-être moins ambitieux, mais qui sont peut-être ludiquement plus. Peut-être plus ambitieux d'un point de vue ludique et artistique, en fait, que d'avoir des blockbusters qui misent tout sur la réalisation et au final, pour éviter un maximum de pertes d'argent, tu trompes un jeu qui est très conventionnel, quoi. Donc,
Bah, c'est surtout
voilà.
que les blockbusters, ils les ont déjà avec les studios internes. Tu vois,
Bah oui,
genre
bien
le.
sûr, en plus, ils ont Street
Enfin, sur.
Fighter, ils ont Monster Hunter, ils ont.
Attends, tu parlais de Capcom. Je croyais que tu parlais du Game
Ouais,
Pass.
mais non, mais Xbox, en plus, oui, ils ont
Parce que
plein de
c'est le cher,
blockbusters qui
il
arrivent.
parlait d'Xbox. Xbox, tu vois, typiquement, le blockbuster, ils vont demander à The Coalition de le faire. Ils vont pas signer un deal avec Capcom pour qu'ils fassent un triple A sur le Game
Bah
Pass. Ça aurait pas
non,
de sens, économiquement parlant.
c'est pas sain pour le Game Pass. En fait, c'est pour ça aussi que le Game Pass marche bien, c'est parce que justement, ils arrivent à faire des deals avec des jeux qui leur coûtent pas une blinde. Xbox, cette année, il y a Hellblade 2, il y a Indiana Jones, il y a, pour l'instant, je pense qu'il y a le Flight Sim qui arrive, il y a le Stalker 2, enfin, il y a tout en tout cas. Pour 2024, pour moi, c'est conséquent. C'est peut-être mieux que chez Sony pour l'instant et que chez Nintendo, de ce qu'on sait. Après, voilà, chez Sony, il y a
Après, tu
Hellblade
vois,
2.
le problème, c'est que ça, je suis d'accord avec toi dans ce que tu as dit. Le problème, c'est que Nintendo, on sait qu'ils aiment bien annoncer des jeux qui sortent 3 mois après. En tout cas, ça ne les dérange pas. Sony l'a déjà fait et on ne sait pas, peut-être qu'ils peuvent le refaire cette année. Et Microsoft commence à le faire aussi. Donc maintenant, en fait, on ne peut que juger à la fin de l'année, à la fin du bail qu'on va payer les musiciens et plus avant, tu vois. Donc
Oui, bah oui.
en fait, faut attendre la fin de la période de juin-juillet, quand il y a l'équivalent des Confe 3, pour savoir si l'année est riche ou pas pour un constructeur, quoi.
Ouais, mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est une année qui s'annonce plutôt sympathique chez Xbox. Pour moi, je la trouve comme ça. Il y a eu Persona 3 qui arrivait dans le Game Pass, il me semble aussi.
Oui.
Donc,
Et en fait, c'est ça, c'est qu'il
ouais,
y a eu
c'est pas mal
Persona
de bonnes
3 dans le Game
cartouches, quoi.
Pass, et ils ont annoncé en fait des DLC pour Persona 3. Dans la config Xbox, et ce qui est intéressant, c'est que les DLC sont disponibles dans le Game Pass Ultimate. Donc en fait,
Ok.
est-ce que ça voudrait pas dire qu'à terme, ils vont rajouter des DLC dans la version Ultimate du Game Pass pour que les
Ouais, c'est
gens
pas
qui ont un
bête.
Game Pass passent en Ultimate, tu
Bien
vois?
sûr, évidemment, pour attirer le chaland sur l'offre la plus élevée. En tout cas, dans cette conf, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont marqué
Bah, moi, le jeu qui m'a vraiment. Qui m'a vraiment. Comment dire. Qui a fait mouche. Il y en avait deux. Il y avait le jeu qui s'appelle. Attends, faut que je retrouve le nom.
J'ai
Voilà.
bien aimé Tales of Kenzerazo, en fait.
Ah, bah alors celui-là, moyen. Enfin, il a l'air
Qui fait un,
sympa.
qui fait, qui fait, ça fait un peu le Prince of Persia de Electronic Arts, en fait.
Bah voilà, c'est ça. Ça, c'est dommage, mais moi, j'allais dire. Voilà, Frostpunk 2, du coup, je suis curieux. J'ai pas fait le premier, mais tu sais, c'est un jeu de
C'est un
gestion
STR, non?
PC. Ouais, mais qui va sortir sur console plus tard. Et c'est un jeu un peu. Tu gères comment, tu gères un mec qui met les mecs au goulag. Enfin, tu gères un tyran qui met les gens au goulag, tu vois.
Ouais, c'est
Donc,
ça, ouais.
sur papier, je trouve ça sympa. Et alors, on a vu du gameplay voilà, de First Berserker Kazan. Et franchement, la direction artistique, elle a tombé. Je te laisse regarder. Et moi, celui que j'ai bien
Ouais.
aimé, c'était Creature of Ava. Et je sais que Mehdi avait bien aimé The Alters.
Ouais, donc il y a pas mal de bons jeux qui sont
The Alters, il
arrivés.
faisait un peu Death Stranding dans le délire, tu vois. Et
Ouais.
et comment il s'appelle, et Creature of Ava, c'était au début j'ai cru que c'était le jeu de Rare qui s'appelle Everwild, mais en fait pas du
Ouais.
tout. Et je sais pas, ça a l'air cool, c'est un peu coloré, un peu feel good. Moi j'aime bien ce genre de jeu en fait.
Bah alors, Berserker Kazan, ça a l'air vraiment d'être un jeu vraiment d'action. Ressemble un peu à Rise of the Ronin, un petit peu. Creatures of Ava, ouais, c'est tout mignon, tout plein et tout. C'est un jeu feel good, donc voilà, donc c'est cool. C'est con, je puisse pas partager mon écran, ça marche pas quand je veux le faire, c'est relou. Si je fais partager l'écran. Hop, partager l'écran, je crois qu'il. Attends, je vais essayer
Si tu fais
fenêtre.
présenter,
Ouais, c'est ce que je fais, mais
présenter.
j'essaye. Hop. Je sais pas si on voit mon écran.
Je vais
Est-ce
dire
qu'on voit
ça.
mon écran?
Là, je vois un écran, ouais.
Avec de
Attends, j'attends.
l'oxygène, tu vois?
Ouais.
Ah bah
Et il le
voilà.
voit aussi, c'est bon. Le retour, j'aurai des retours,
Bah
t'inquiète pas.
parfait, bah parfait, c'est cool, comme ça on peut. Génial. Et si je fais plein écran, vous le voyez toujours ou pas là?
Attends, là, non, on va cliquer pour quitter le plein écran.
Ok, donc ça marche pas en plein écran. Mais bon, mais la vidéo se lance là aussi.
Ouais, là la vidéo
Ok,
on la
donc, faut.
voit.
Donc on a Frostpunk, je vais vous montrer. C'est cool ça, Tales of Kenzera Zao. J'adore Xboxygen, hein, je vous le dis. Donc ça, c'est un petit peu. Ça fait très Prince of
Au
Persia,
moins,
mais après,
c'est
s'il
le
est beau.
Prince of Persia cross Ori, tu vois,
Ouais,
au
un
niveau
petit peu,
de.
oui, c'est au niveau de la DA, effectivement. Mais moi, je suis client après de ce genre de truc, mais malheureusement, on en a déjà eu un gros cette année avec Prince of Persia.
Qui
Il
s'est
arrive
mal
quand même assez
vendu?
vite, qui
Qui
s'est
s'est
mal
mal
vendu.
vendu? Eh
Ça,
oui.
c'est EA qui est derrière, il me semble, hein, si je me trompe pas.
Tales of Kenzera, il fait partie du EA Originals. C'est
Voilà,
le.
un petit peu comme Unravel, par exemple, si je me trompe pas.
Unravel, c'était EA, ouais.
Voilà, donc. Voilà, donc on vraiment voit tous les trucs du genre, les pouvoirs, l'arbre de compétences, les différents biomes, les phases de plateforme, les phases de combat. Faut voir, mais pour l'instant, moi, ce que je vois me plaît bien, même si la direction artistique, surtout dans les cinématiques, comme on voit là, elle me semble un peu moins belle que. Encore plus, entre guillemets, jeu mobile que Prince of Persia. Mais voilà, les phases de gameplay, comme on voit là. Je trouve ça propre, voilà, personnellement. Ensuite, on a First Berserker Kazan. Je sais pas si
Ouais.
ça a un rapport avec la ville de Kazan en Russie. Je connais
Je crois
pas.
pas, hein.
Je sais pas.
C'est le
Bon.
général de l'Empire, il s'appelle Kazan. Non? Ah non.
Ouais, peut-être, je sais
Si, c'est
pas.
ça.
Bon.
Kazan, c'est le général, ouais.
Alors, est-ce que c'est un Souls-like?
Bah, j'ai l'impression.
Ça ressemble, hein?
De ce que dans le premier trailer, je sais plus quand, c'était au Game Awards qu'il avait été annoncé ou à une
C'est pas
conférence
l'année dernière,
E3.
Microsoft, il y a le
Ou
3, ouais,
peut-être
il me semble.
Microsoft, ouais, tu vois, je sais plus, mais je sais qu'on l'avait déjà vu. Et effectivement, parce que les gens pensaient que c'était Berserk.
Oui.
Et c'est pas Berserk.
Ouais, ok. Bon, en tout cas, ça, tu vois là, pareil, tous ces jeux, bah, pour moi, je les suis.
Attends, descends,
Enfin.
descends, il y a celui qui m'intéresse le plus.
Ouais,
Bah,
je sais, mais je voulais remonter un petit peu, mais il y a Creatures of Ava, qui est magnifique, en fait. Vraiment magnifique.
et
Jeu
tu
de
vois,
sauvetage de
ça
créatures
manque, toi.
unique.
Parce que ça a l'air, tu vois, d'être un jeu grand public. Ça manque, en fait, dans les spots un peu de pub ou la mise en avant du Game Pass. Tu
Mais
vois, de
bien
dire
sûr,
que
mais
c'est.
alors, il y a zéro mise en avant du Game Pass, donc c'est pas
Oui,
compliqué,
mais
mais.
si, dans les spots, tu dis il y a zéro mise en avant, le Game Pass, il y a de la pub sur Twitch, sur YouTube, sur Internet, il y a de la
Ouais,
pub.
mais
Mais
là il
ça.
est temps de. Tu vois, c'est typiquement. Pour moi, c'est un produit qui serait. Ah, oh, c'est bon. Ouais, c'est bon, on peut faire des câlins aux animaux. C'est bon. Putain, moi, c'est. Oh, ils sont trop mignons en plus. Putain, j'adore ce genre de truc. C'est ouf, hein.
Ouais, mais tu vois, ça je sais que il est dans le Game Pass, je sais que j'y jouerai, tu vois. Quoi qu'il arrive.
Ils sont tous Game Pass, hein, là, les jeux qu'on montre.
Pas tous, je crois.
Ok. Ensuite, on a
Uncode 9,
Unknown.
c'est un gros projet, c'est Bandai Namco, je crois. Si je dis, en tout cas, j'ai pas envie de dire bêtise, mais il me semble que c'est Bandai Namco et c'est un projet cross-média. Donc on attend d'avoir plus, mais
D'accord.
visiblement
C'est beau, hein?
ils ont prévu de faire plein de choses. Ouais.
Ça, on l'avait déjà vu, celui-là aussi. Et ça, c'est un côté Banishers, un peu.
Bah au début, ouais,
Tu vois ce
je
que
crois
je
que
veux
c'était
dire?
le premier jeu annoncé dans le show. Je suis arrivé un peu en retard ce midi, et au début je croyais qu'il remontrait une pub pour Banishers. Et en fait pas du tout.
Ah
Ouais,
ouais,
Bandai
d'accord, c'est
Namco, c'est
Bandai
ça.
Namco qui l'édite, ouais.
Et en dessous, t'as ou deux trucs
T'as
en dessous,
juste
t'auras.
la seule crainte que j'ai avec les jeux comme ça, c'est que tu sais, c'est des jeux qui ont l'air de mélanger beaucoup de boucles de gameplay. Et je trouve qu'en mélangeant trop de boucles de gameplay, ça fait un peu comme Banishers, au final, bah, tu sais, genre, t'as un goût de. Ah ouais, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux, en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est très bien. Donc ensuite, il y a quoi? Sleight of Hand.
J'ai aucun souvenir de ça.
Je crois que c'est un truc d'horreur, il me semble, ça.
Deck
Ah non, c'est
builder
un
d'action.
Un peu noir.
Une furtivité.
Ah, ok, les deck builder, ok. Deck builder, moi, je sais pas trop mon truc. En plus, là, c'est la cinématique. Bon, on verra bien. Et ça, c'est le truc qui arrive, là, évidemment.
Ouais.
C'est le truc qui t'avait dit, ça, évidemment.
Ça, il a l'air vraiment cool.
Celui-là, on l'avait déjà vu aussi.
C'est possible. J'avoue, je m'en souvenais pas, moi.
Parce qu'il y a, il y a le projet, tu sais, avec, avec les anciens de Mass Effect, là.
C'est pas celui-là.
C'est pas celui-là, je sais bien.
Non. Toi, tu parles d'un triple A
Mais.
qui a été montré au Game Awards.
Exactement.
Là, ça a l'air quand même
Celui-là.
d'être un jeu. Mais tu vois, là, on dirait Death Stranding, quoi. C'est abusé.
Starfield.
Mais alors, attends, il y a un twist. Tu
Ah
vas
ouais?
voir. Tu vas voir.
Ouais, ça fait 5 minutes de vidéo, donc j'espère que le twist.
Voilà, on y arrive. En fait, c'est un jeu
Ah,
de
mais tu.
gestion de.
De gestion de clones, ouais, j'ai vu ça, ouais,
Voilà.
je l'ai vu. Tu dois gérer des clones à toi, et après, chacun a sa spécialité en fait, dans la station et tout, quoi. Donc, ouais. Ah, il y a une breaking news en plus sur quelque chose dont on va parler après.
Ah bon?
Breaking news. Ouais, à l'instant. À l'instant, une breaking news. De ouf, par rapport à Apple et Epic. Donc ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Je vais te l'envoyer immédiatement. Comme ça, je te le transfère. Ouais, ça me branche bien, moi, ce jeu. Tu vois,
Bah
honnêtement.
ouais, non mais franchement, ça a l'air cool.
Ça me branche bien. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, derrière, on a eu quoi? Roblox, ok. Avec Chucky. Sinking City 2. FF14 Online. Ce Stalker, c'est. C'est un side project, c'est ça?
Non, en fait, c'est les premiers jeux, tu sais, parce que là-bas, c'est Stalker, enfin, il y a
Ah,
des jeux.
ok,
Et là, ils
d'accord.
les ont remasterisés et sortis sur console.
Ok, super. Ouais, putain, j'avais fait à l'époque le premier sur mon PC à l'époque, t'imagines? On l'avait attendu de fou. En tout cas, bon, bref, tous ces jeux, ils arrivent. Hop. Stalker, il est pas Game Pass, apparemment. Ah, si!
Stalker 2 et Game Pass, celui-là, je sais pas.
Stalker 6-6, le jour de sa sortie dans le Game Pass, c'est marqué là.
Non mais ça,
Ok,
c'est
ça,
Stalker
c'est.
2.
Ah oui, je suis bête, je suis bête. Je suis bête, je suis con.
Et il y a eu
Très con.
FF14 qui était pas mal attendu par les fans sur
Ouais,
Xbox.
The Alters dans le Game Pass. Le Deck Builder dans le Game Pass. Unknown 9, lui, il est pas Game Pass. Creatures of Ava, Game Pass. First Berserker, pas Game Pass. Tales of Kenzera, pas Game Pass. Et Frostpunk, oui. Et celui-là, le End of the Goddess, Game Pass. Donc
Et
finalement,
il
un
y a un
truc.
dernier truc intéressant. C'est
Ah, c'est celui.
comment ça s'appelle? C'est le projet qui a été dévoilé sur Roblox.
Ouais.
Parce que ça montre que bah, Roblox, tu sais, nous on en parle peu parce qu'au final ça nous parle pas, c'est surtout les
Ouais, mais
enfants qui y jouent.
c'est un truc monumental, hein, Roblox.
Ah bah c'est une machine à cash. Et là ils ont balancé, donc un peu comme Fortnite, c'est tu sais, des jeux dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont
Ok.
balancé un jeu qui s'appelle. Enfin, c'est Griffville x Chucky et c'est un jeu dans Roblox.
Bah ouais, mais ça devient de plus en plus avec comme Fortnite, des plateformes.
Exactement.
Des plateformes. Telles. Écoute, Thibaut, je te propose. Qu'est-ce qu'on fait? On fait. Ouais, on va faire FF7 et ensuite on finira par Apple contre Epic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas mal comme petit programme. Tout ça. Voilà, 38 minutes 30, comme ça on est bon sur le. Si je tape là, ça va pas marcher. 38-30. Donc Final Fantasy, FF7 Rebirth, dont les premiers chiffres ne sont pas encourageants. Alors, disclaimer, quand même, ce sont les chiffres de la première semaine au Royaume-Uni et au Japon, en physique uniquement. Donc, prenons avec des pincettes quand même ces chiffres, étant donné que. Les gens consomment de plus en plus de dématérialisés et que le parc de consoles, forcément, n'est pas le plus optimal quand on va comparer à d'autres jeux. Mais attention, il y a quand même des enseignements à en tirer, il y a quand même des indicateurs qui font que on peut être inquiet. Premièrement, je vais dire un truc, je crois que c'est 6,4 ou 7 grand max millions de FF7 remake qui ont été vendus. comprenant le PC, les éditions intégrées et tout. Finalement, FF7 Remake à 7 millions, c'est pas dingue, à mon sens, comparé aux chiffres de vente qu'ont pu faire les Final Fantasy pendant leur grande période, et comparé au mythe qu'est Final Fantasy VII, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais en fait, c'est, tu vois, quand on parle de bulles et tout, bah, on est typiquement là-dedans. C'est que t'as l'impression que c'est le jeu le plus attendu de tout le monde et machin. Et en fait, bah, ça concerne que une sphère plutôt petite du jeu vidéo, quoi.
Ouais, donc
Parce que sinon, le jeu, il aurait fait.
clairement.
Tu vois, t'entends plein de gens quand tu discutes dire je vais acheter une Play que pour FF7 Remake à l'époque, tu sais, la conf de 2015, c'est la conf du siècle, ils ont tout arraché avec Shenmue 3, FF7 Remake, The Last Guardian. Au final, The Last Guardian, c'est vendu à quelques millions d'exemplaires, mais vraiment pas beaucoup, genre 2 ou 3, je crois. Shenmue 3, ça a été un flop, aussi bien artistique que critique que commercial, tu vois. Et FF7 Remake, pour le coup, le jeu est bien, même excellent. Mais tu vois, il s'est vendu à 7 millions, dont 5 sur PS4. Donc ça veut dire, tu vois, même sur PC, ça veut dire qu'il n'a pas du tout marché, quoi. C'est-à-dire il a fait peut-être
Non,
1,5 million
c'est
sur
clair.
PC. C'est un bide. Après, ils ont voulu faire un deal avec l'Epic Game Store. On sait que l'Epic Game Store, il n'y a pas grand monde qui achète dessus. Mais quand même, tu vois, tu te dis, ils sont peut-être passés à côté d'autre chose, quoi. Je pense que quand tu vois que Resident Evil 2 Remake, il a fait, je sais plus, je crois, 13 millions de ventes. Je sais plus que Capcom a publié les chiffres,
Ouais,
mais tu te dis.
alors, juste quelques repères, en fait. Final Fantasy 7, c'est 15 millions de ventes, l'original. Voilà. 15 millions de ventes sur le cumulé PS1, PC, PS3, Remake, enfin les versions HD, etc. En tout cas, le Final Fantasy VII d'origine, avec ses dérivés, c'est 15 millions de ventes et le remake n'a vendu que, entre guillemets, 7 millions d'exemplaires, ce qui est peu. Pour avoir quelques chiffres de comparaison, Final Fantasy VIII, c'est 12 millions, donc quelque part, c'est un petit peu moins que les 15 de Final Fantasy VII, mais ça reste très bien. Final Fantasy IX, c'est 9 millions. Final Fantasy X et X2, à eux deux, c'est 21 millions. Donc c'est colossal. C'est colossal, hein, 21 millions pour. Alors 10, c'est 9 millions.
Après,
10-2, c'est
c'est notre
5
époque.
millions. Et la compile, c'est. Ouais, c'est notre époque, mais une époque où il y avait quand même moins de joueurs de jeux vidéo, tu vois, moins de communication.
Ouais, mais c'était il y a 20 ans. C'est ça, hein? À peu près.
À peu près, ouais, à peu près.
C'est date de quand? X et X2. Enfin, 10 et 10-2, pardon.
10 et 10-2, c'est 2000. C'est 2005. Attends, non, 2001, pardon. C'est
Ouais, donc
2001,
c'est
2001.
ouais, 23 ans, tu vois, le jeu vidéo
C'est 23 ans, mais
2001.
je sais.
C'est
Ouais, mais il a évolué, mais justement, est-ce que l'évolution, est-ce qu'elle n'est pas, entre guillemets, compliquée pour Final Fantasy? Par exemple, FF12, c'est 12 millions d'exemplaires vendus, quoi. Tu vois, c'est.
Ouais, mais moi j'ai rien.
FF13,
FF15 surtout.
FF13, c'est 10, 10-2, c'est 8. Lightning Returns, c'est 4. Au final, FF13, la trilogie, c'est 20. FF15, je crois. Alors, on va regarder
FF15, c'est
FF15.
10 millions.
En tout, c'est 10
FF15,
millions? Ouais, 10
bah
millions, tu
c'est
vois. Donc,
10 millions.
clairement, 10 millions. On voit une baisse, en fait. On voit une baisse, tu vois, d'intérêt
Mais
au
c'est
fur et à mesure, en
logique.
fait.
C'est logique parce que,
Bah.
objectivement, moi je te dis, moi j'ai commencé les FF récemment, mais ils te mettent dans chaque jeu, en tout cas dans tous ceux que j'ai fait, c'est-à-dire le 15, le 7 remake et le 14, j'ai l'impression que c'est un FF pour les nouveaux venus et les anciens. Ils disent ça tout le temps. La réalité, c'est que c'est pas un jeu fait pour les nouveaux venus. Parce que tout le lore, tout le truc, en fait,
Mais non, mais non.
ils ont. De quoi? Non. Si!
Mais
C'est.
non, chaque jeu est unique. Donc,
Ben
si
oui,
demain,
mais
toi, tu.
demande à tes neveux, tiens, s'ils ont envie de faire un FF, ils vont voir tout un bordel, tout un barnum, il n'y a rien qui est fait en vrai pour que les nouveaux joueurs viennent. Faut que les nouveaux joueurs ils viennent, ils s'intéressent à la
Bah,
licence, tu vois, c'est pas du tout comme, j'en sais rien moi, un
est-ce que
nouveau.
FF, par exemple, est-ce que FF15 n'a pas un bon onboarding quelque part? C'est toi
Bah
qui l'a
non,
fait récemment, le FE15.
au contraire, il en a un mauvais, parce que t'es obligé de regarder un film, t'es obligé de. Non, non, il a un super mauvais onboarding.
Ouais, oui, c'est vrai. Bon, le film, il est
Mais
bien,
tu vois,
mais bon.
et le fait rien que de dire FF15, FF16, quand bien même tu te dis, est-ce qu'il
Oui,
faut
c'est un
faire les 15
blocage, parce que
avant?
tu te dis, ouais, oui, il
C'est
y a
un
plein. Mais tu
blocage.
sais. Et attends, j'ai même un pote qui joue aux jeux vidéo, Il me disait, ouais, putain, mais j'ai bien envie de faire le 7 remake, mais j'ai pas fait les 6 premiers. Il m'a dit ça l'autre jour.
Bah oui, mais c'est quand je te dis ça. C'est-à-dire que
ouais,
là,
donc la numérotation, est-ce qu'elle est pas.
Bah évidemment que est... ça joue. Évidemment que ça joue. Et évidemment que quand t'as. Tu vois, mais t'as ça, imagine, t'as FF7 Rebirth. Le mec, il se renseigne un peu, il voit qu'FF7 Rebirth, c'est la suite de FF7 Remake, qui est une adaptation du jeu original. Le mec, c'est fini.
Oui, mais alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, en plus, ce qui est assez pernicieux, c'est que Square, ils ont appelé ça Rebirth. Ce qui fait qu'il n'y a aucune indication pour te dire qu'il y a une partie 1, en fait.
Et tu vois, on en avait parlé, je ne sais plus si
c'est... Imagine, imagine le mec qui est passé à côté de Remake et ouais. Qui va prendre Rebirth, il va se dire, mais attends, mais j'ai loupé une partie, en fait, là.
Alors, bah, pour le coup, je ne me rends pas compte, toi, tu l'as fait récemment, Rebirth. Est-ce qu'il n'y a pas une cinématique au début qui récapitule
ouais, mais le mec, il va être dégoûté, parce qu'à aucun moment, ni dans la com, ni sur la boîte, tu vois que c'est la suite d'un jeu, en fait.
Bah moi,
il n'y a pas marqué partie 2, quoi.
J'ai vu la pub de Rebirth au cinéma, avant Dune d'ailleurs, et je me suis dit...
J'y vais demain en 720p.
Je me suis dit demain... Je me suis dit,
en VF, en plus.
Je me suis dit, là, t'es dans la salle, t'as un mec qui connaît vite fait FF, la pub donne pas envie de s'y mettre. Tu vois
ouais, la pub ouais, donne pas envie
de
s'y mettre.
Parce que la pub, en fait, elle donne envie de s'y mettre à un mec qui a fait FF7 original et qui a fait FF7 remake. Là, la pub, elle donne grave envie. Mais un mec qui connaît pas, un mec lambda... qui joue aux jeux vidéo de temps en temps, la pub de Rebirth, il va se dire ça, il va dire FF7 Rebirth, il va dire déjà j'ai pas fait les 6 premiers, et après il va s'enseigner, il va voir qu'il y avait eu remake, il va voir que c'est fini, c'est fini. C'est
compliqué. Donc pour être concret, en fait, donc on a les chiffres de l'année... Hop, les chiffres de l'année, alors attends, est-ce que c'était pour l'Angleterre ?
Non. De l'année
non, ouais, non, je me suis trompé d'article en fait. Mais pour l'Angleterre.
En gros, on a eu les chiffres de l'Angleterre. Les Angleterres, je sais plus si on a eu les chiffres. On a eu la phrase d'un mec qui a les chiffres officiels et dit que c'était 30% ouais. Inférieur à.
Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. En boîte, c'est 30% inférieur, c'est à peu près les.
À Remake.
Ah oui, à Remake, pardon, je vais y arriver.
Et au Japon, du coup, parce que je les ai envoyés à midi, tous les chiffres, je les ai plus en
tête. Je les ai. Les charts du Japon, en fait, c'est... par rapport au même temps de commercialisation, FF7 Remake avait été accueilli par 700 000 ventes la semaine de sortie.
C'est la semaine de sortie, c'est important, ça.
La semaine de sortie. Mais attention, le parc de machines n'était pas le même. On avait 9 millions de PS4 contre 5 millions de PS5. Au Japon, hein, je parle. Hein, donc
oui.
Forcément, c'est logique. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... à ce moment-là, tu vois, FF15, la première semaine, c'était 716 000. Donc, on était dans les 700 000 pour FF15 et FF7 Remake. Par contre...
Attends, FF15, 700 000, tu dis ?
La première semaine.
Et FF15, c'était... Il sortit en 2016, on est d'accord ?
Ouais.
Donc, le parc de machines de PS4 en 2016, ça fait même pas 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans, pardon. Il n'était pas non plus énormissime. On est d'accord ?
De quoi tu veux dire ?
Bah, FF15.
Non, non, FF15, c'est 716 000 ventes.
Première semaine.
700 000 ventes pour FF7 Remake, donc on est dans les mêmes eaux. Par contre, on est très loin du 1,5 million de ventes de FF13 au temps de la PS3. Tu vois qu'il y a eu un shift avant, après FF13, en fait.
Oui, non, mais il y a eu un shift, mais c'est surtout de se dire que le parc de machines, en vrai, c'est un peu du bullshit, parce que... Toi, t'es un fan de... Les fans de FF, ceux qui veulent jouer à FF, ils achètent la Play. Et ce que je veux dire, je veux te faire dire, en fait, c'est... Ok, il n'y a pas le même parc de machines de PS5 que de PS4 pour Remake, mais à l'époque, Remake, le parc de machines, il est bien plus élevé qu'en 2016, vu que c'est 4 ans après qu'il sort. Que FF15, pardon. FF15, il sort fin 2016. La PS4 a que 3 ans au Japon. Et Remake, il sort la PS4, elle a quoi? Elle a 6 ans au Japon. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
donc 700 000 dans les deux cas, ça veut dire qu'en fait, le public, il est flat. Les mecs intéressés par Final Fantasy, à la marge, il y en a qui sont peut-être un peu déçus du 15 et d'autres qui se disaient, moi, j'attendais cette remake. Ok, mais ça veut dire que globalement, c'est la même quantité de joueurs. Et quand on apprend en Angleterre qu'il y a eu 30% de baisse de remake sur Rebirth, et qu'au Japon, c'est pas 30% de baisse.
Attends, au Japon.
400%.
Bah, tu fais 700 par rapport à 200, tu vois. Enfin, 702 par rapport à 262, tu fais le ratio. Parce que en boîte, tout ça, c'est pour la boîte. Donc, c'est pour la boîte et la première semaine. Hein, donc, c'est pas représentatif de toutes les ventes, mais c'est un bel indicateur quand même. Et en fait, il est derrière les 336 000 ventes de FF16. Donc, imagine FF16, 336 000 ventes et uniquement 262 000 ventes pour Rebirth. Certes, c'est le deuxième meilleur lancement boîte d'un jeu PS5 au Japon. Ça, c'est Mr. Pixel qui essayait de nous rappeler ça dans ses tweets. Mais pour moi, ça reste un énorme recul. Imagine, on est passé de 1,5 million de FF13 la première semaine au temps de la PS3 à 262 000 pour FF7 Rebirth. Alors je veux bien, il y a eu un changement dans la consommation, on consomme énormément plus en dématérialisé, donc c'est pas fort, il faut pas les mettre fatalement en frontal. Mais pour moi, le gap, il est tellement énorme que jamais, avec le, s'ils additionnent le dématérialisé, jamais t'arrives à 1,5. Et je suis sûr que t'arrives même pas à 700 000. J'en suis certain.
Mais en fait, au-delà de ça, parce qu'on va dire que c'est un peu biaisé quand tu prends la PS3, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, mais factuellement, FF16 est sorti il y a même pas un an, donc il y avait encore moins de machines, et pour le coup, c'est vraiment proche, donc c'est vraiment similaire.
Oui, oui,
les usages des Japonais entre juin 2023...
Oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes.
Et qu'est-ce qu'on voit? Il fait 30% de ventes en moins sur Rebirth que Remake.
Ouais, alors en plus...
Sur FF16, pardon. Et il fait 3 fois moins de ventes, donc... J'ai plus les statistiques en tête, comment ça fait, je crois que c'est 300 ou 400.
C'est 3 fois moins de ventes.
Oui, c'est gigantesque que Remake.
Par rapport
c'est
à Remake. C'est alors évidemment, ça a changé, mais Remake, on n'était pas non plus... Je veux bien, par rapport à FF13, il y a un monde. Par contre, Remake, on était déjà dans le mode de consommation, du démat et tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Square enchaîne les flops. Alors, à part FF14, qui est une cash machine, mais derrière, c'est quand même... C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Et moi, ce qui m'embête, c'est que Rebirth, en plus, a eu un accueil critique dithyrambique. Personnellement, sur la version papier, enfin la version papier, non, je ne suis pas là, la version web des Share Players, je lui ai mis un 10 sur 10. Tiens, maintenant que je peux partager mon écran, je vais vous remontrer un petit peu ce que ça donne, parce qu'on est assez fiers. Et alors, Brioche, ça suffit, c'est pas le moment là. Je sais que tu as faim. Et oui, 19h, elle est ponctuelle, là. Hein. Tu te tais. Enfin, je dis ça, mais elle est sourde. Alors, en même temps, bon, mais je vais vous montrer. Regardez, je suis assez fier du truc. Je suis assez fier. Regardez le beau site internet. Merde, c'est pas ça.
Wow, là, tu me donnes mal à la tête.
Ah ouais, là, je donne mal à la tête à tout le monde. Pardon. Je me suis trompé. Je me suis trompé, oui, parce que normal. C'était pas le bon truc. C'était il est là. Autant pour moi. Vous le voyez, je l'espère. Je vais mettre en plein écran. Donc voilà. Donc on a le test. Ce qui est cool, c'est en bas, regardez, vous voyez la barre de progression, 15%. Les conditions de test. Hop. Alors, j'avais pas d'illustration à l'époque parce que Square n'en fournissait pas. Je voulais pas faire d'impair. Et puis quand on descend tout en bas, ce qui est cool, c'est que la note, hop, on la voit monter. Et elle, donc, je lui ai donné la note de 10 sur 10. Donc ça, c'est une preview du site internet. Un site internet qui est financé en partie par le Patreon des Share Players, que je vous remets ici, si vous voulez. Il y a 3 offres, l'offre mensuelle. C'est des offres mensuelles à 5, 10 et 20 euros qui vous donnent plein d'avantages, des vidéos en avance, un accès exclusif au Discord avec les coulisses de la chaîne, et puis des goodies. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen. Il y a le lien dans la description. Attends, Thibaut, je vais juste te laisser prendre la parole 2 secondes, le temps que je calme le chien, parce que j'ai pas envie non plus qu'elle me fasse n'importe quoi.
Du coup, je vais répondre au chat. Je vois que Barbeau, tu dis que les ventes de Rebirth, t'es pas sûr qu'elles soient en dessous des attentes de Square Enix. Mais si jamais Square Enix avait pas prévu d'en vendre plus, c'est un peu dommage parce que je pense qu'ils ont vraiment moyen de faire un jeu. Ben, le jeu est extraordinaire d'après tous ceux qui ont joué. Et c'est dommage qu'il se vend aussi peu, quoi.
Alors, clairement, même s'il y a des assets qui ont été récupérés, clairement, on voit qu'il y a un changement d'échelle immense. Et on voit clairement que ça. On l'a souligné, et pour moi, c'est le retour d'un Square Enix ambitieux, d'un Square Enix flamboyant, tu vois, qui nous en met plein la vue, avec des vrais. Enfin, même si évidemment, ils ont un matériel d'origine qui est extraordinaire, c'est un des plus grands jeux de l'histoire. Donc, mais en tout cas, ils le subliment intelligemment. Et pour moi, clairement, je me dis, putain, mais on a 2 exemples cette année avec des jeux avec des notes dithyrambiques. Prince of Persia et FF7 Rebirth, et le public ne suit pas. Et quelque part, est-ce que c'est un désaveu pour la presse aussi, Thibaut, de se dire...
Non, c'est juste qu'il y a un truc qui est compliqué à entendre pour les gens justement de la génération Dragon Ball, c'est que la presse, tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui fait ou défait un jeu. C'est factuel.
Alors c'est quoi alors qui fait ou défait un jeu? C'est les streamers, c'est...
Bah, ça dépend le type de jeu. Pour un
Parce
jeu
qu'il a été
multi.
quand même pas mal streamé, FF7 Rebirth.
Bah, pas tant que ça. Hein.
Il n'y a pas eu des opérations de com de la part de Square, il me semble.
Bah, il y en a eu, mais pas tant que ça. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle bien streamer. C'est-à-dire que.
Ouais,
En fait,
c'est
au
pas, on n'est pas dans
final.
Palworld, quoi.
Oui, voilà, tu vois, typiquement, Palworld ou Helldivers 2, c'est un jeu à streamer. Mais c'est logique. Mais ce qui vend un jeu, c'est le bouche à oreille. Est-ce que tu as eu beaucoup de gens? Alors, peut-être que certains vont me dire qu'au boulot, ils en parlaient à la pause café, mais personnellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens.
Je sais pas, dans les journaux, il y avait un article dans les journaux, ils en ont parlé même, tu sais, même si sur LCI, même s'ils ont dit un peu des conneries, ils
Ouais,
ont
mais
quand
tu
même
vois,
parlé du
ouais,
jeu, tu
mais tu vois,
vois.
même eux, tu vois. Et alors, je pense que c'était vraiment de bonne foi. Et moi, je fais pas partie des gens qui vont les tailler parce que je considère que c'est quand même assez cryptique le jeu vidéo à analyser, à parler, tu vois. Et le fait est que même eux, en fait, ils ont même pas dit Rebirth. Ils ont dit il y a le remake de FF7 qui sort. Tu vois,
Ouais,
ils ont même pas dit le mot Rebirth.
c'est
Ça,
pas
et
cohérent, quoi.
ça prouve que même au sein du grand public, du très grand public, la com, elle est mal foutue, mais elle est mal
Ouais.
foutue. Elle est mal foutue pas parce que Square veut tromper les clients, parce que je vois que le cher, toi, t'es plus sur cette ligne directrice de dire qu'ils vont même pas dire que c'est la suite de remake pour pas empêcher des ventes. Mais en fait, c'est que le grand public, tu vois, déjà Final Fantasy, c'est un truc, ça leur parle de nom, tu vois, ils connaissent, mais concrètement, ils savent pas ce que c'est. Et le fait qu'il y ait plein d'épisodes, bah, ça te perd. En plus, les gens, ils ont dû voir Final Fantasy 16. Tu vois, où t'es à la Fnac, tu vas acheter Final Fantasy. T'as Final Fantasy Rebirth, à côté, t'as le 16. Et est-ce qu'il n'y a pas la boîte du 14 d'à côté? Je sais pas, tu vois, c'est possible.
Ouais, non,
Les
mais
gens
c'est
sont
des
perdus.
explications, quoi.
Et le
Et puis,
problème,
est-ce
c'est
qu'il
que.
faut appeler un chat un chat? C'est peut-être une licence qui est complètement perte de vitesse.
Mais c'est totalement perte de vitesse, parce que comme je te le dis, en fait, il y a très peu de nouveaux joueurs qui vont. Les nouveaux joueurs comme moi qui vont, c'est qu'ils investissent d'eux-mêmes du temps pour comprendre l'univers ou
Toi, t'es
qu'ils sont
passionné
déjà.
aussi.
Oui, voilà, mais moi je suis pas. Je représente pas
Non, non, t'es
les
pas
gamers moyens
représentatif. Mais non,
qui se disent
pareil.
pourquoi pas, j'ai un jeu à faire, je vais peut-être prendre Rebirth, tu vois. Le mec qui a envie de prendre un jeu comme ça, il va prendre un Spider-Man 2 ou God of War ou Horizon. Et le problème, c'est que le JRPG, le jeu tour par tour, au
Il n'est
final,
même
à
pas au tour
part.
par tour
Oui, mais le JRPG
FF16
au
et...
global, regarde, tous les fans Nintendo du chat pourront le dire, c'est Xenoblade. Et Xenoblade, t'entends tout le monde, c'est le jeu du siècle. Les Xenoblade, c'est génial et machin. Pourtant, il n'y en a pas un qui dépasse les 3 millions de ventes. Alors qu'il y
Oui,
a
bon, ils sont quand
140
même
millions de
très
Switch.
partis. Pour moi, ils sont quand même très particuliers, les
Oui,
Xenoblade,
mais
si tu
ça
m'entends
n'empêche
bien
que
quand
le
même.
jeu est excellent, que les critiques sont excellentes, que le retour joueur est excellent et qu'ils font que 3 millions de ventes. Ça veut dire qu'au final, le grand public répond pas présent. Parce que c'est pas un jeu qui cible le grand public.
Ouais,
Et
je sais, je sais.
Final Fantasy, on aura beau dire que c'est le jeu le plus vendu de la PS1, le Final Fantasy 7 en fait. Le fait est que le public a tellement évolué que maintenant, le public type d'un mec qui a acheté FF7 sur PS1 ne va pas acheter FF7 sur PS5. Il va jouer à d'autres jeux.
En tout cas, on va suivre ça. Une piste, ce serait peut-être de sortir une série, tu vois, d'essayer de trouver un moyen de rendre la série populaire. Ils ont de quoi faire avec un matériel. Je vous rappelle, avant qu'on passe au dernier sujet, que dimanche, on a un débat. Thibaut sera là, je serai là. Mais c'est un débat idéologique qui est assez important pour notre industrie. Est-ce que la puissance, c'est important? La puissance des machines, est-ce que c'est important pour le jeu vidéo? Et on aura d'un côté Mehdi et peut-être un peu Thibaut, et de l'autre côté Nico Augusto.
Non,
Moi, je vais essayer de
il n'y aura pas
tempérer.
Mehdi, il y aura Mehdi RTX, comme à l'époque.
Mehdi RTX. Et regardez, ça commence déjà à se vanner sur les réseaux. Regardez ça. Voilà. On est vraiment. Il n'y aura pas d'épine dans le pouce de la main. Ça va vraiment se fighter. Nico, tu vas faire dodo en RTX. Mehdi a lancé sa compagnie Puissance Ambulance. La réponse n'a pas tardé avec Nico qui est allé directement réserver une chambre d'hôpital, une chambre pour critique 16VP et mettait qu'une Switch sans OLED, merci. On sent vraiment la tension qui monte pour le grand affrontement idéologique de dimanche soir. Je compte vraiment sur tout le monde pour être là. Évidemment, ça sera un débat dans le respect. Tout ça, c'est de l'entertainment. On surfe un peu sur la vague du combat qu'on a suivi tous en direct hier et on était vraiment dégoûtés. Putain, mais j'avais envie de passer l'aspirateur, moi, avant, pour qu'il n'y ait pas cette écharpe dans le pied. En tout cas, bon, voilà, on espère vraiment que vous serez très nombreux à être là dimanche soir. On va passer à quelque chose, là aussi. On n'en parle peut-être pas assez sur les chaînes, je trouve, de jeux vidéo, mais pour moi, c'est fondamental ce qui est en train de se passer entre Epic et Apple. Et il y a eu un retournement de situation à l'instant qui est qui est vachement important dans ce qu'on va dire. Donc vraiment, à une heure près, on était presque, je dirais pas à côté du sujet, mais à une heure près, on n'y était pas. Donc petit rappel des faits. En 2020, Fortnite tournait sur iPhone, et en fait, Epic, pendant une mise à jour qui s'est déroulée pendant la nuit en Californie, c'est très important, comme ça ils ont pu prendre un peu Apple par surprise, ils ont déployé une mise à jour dans laquelle tu pouvais acheter via un service de cloud, en tout cas, en interne, tu pouvais acheter des micro-transactions sans en fait passer par le côté d'Apple, et ça te coûtait moins cher. Évidemment, Apple, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont pété un câble et ils ont décidé tout simplement de ne plus travailler avec Epic parce qu'ils se sont dit Epic n'est pas un partenaire fiable et ils ont violé les accords que l'on a ils ont violé les accords qui sont sur le papier. Epic, ils ont répondu que ces accords, en fait, ils étaient beaucoup trop restrictifs et que de toute façon, si Apple, en plus en empêchant Epic et tout ce qui venait d'Epic, ils empêchaient également tout ce qui sortait de l'Unreal Engine, et ça pouvait créer un énorme problème pour énormément de développeurs. S'en est suivi un procès aux États-Unis qui a été long et compliqué. On a eu pas mal de pics, hein, c'est vraiment la guerre entre Sweeney et Tim Cook. Ça a été assez houleux. Et il en est ressorti de ce truc-là que Tim Cook, en fait, s'en foutait. Enfin, Apple. Enfin, c'est ces arguments d'Epic, s'en foutait un peu des développeurs, écoutait beaucoup les consommateurs, mais pas les développeurs. Le problème, c'est que la Cour suprême, les instances américaines, alors j'ai pas les noms exacts, en fait, n'a pas pu statuer là-dessus parce qu'ils ont dit, de toute façon, si Apple n'a pas envie de travailler avec X ou Y, c'est leur droit. On peut pas forcer Apple à travailler avec l'un ou l'autre. C'est là que Epic a décidé de lancer aussi la machine côté européen, qui était déjà un petit peu rodé. Et en fait, l'Union européenne a statué comme quoi... c'est pour ça qu'on a eu la mise à jour 17.4 pour ceux qui ont un iPhone il y a 2 jours, en fait. Cette mise à jour, c'est une des plus importantes parce qu'elle autorise techniquement les stores d'applications tierces. Par exemple, je vais prendre un exemple. Vous ne pouvez pas acheter des produits digitaux aujourd'hui sur votre iPhone sans reverser une commission à Apple. Un exemple très, très, très parlant, c'est Amazon. Vous pouvez acheter tout. Sur votre application Amazon, vous pouvez acheter ce que vous voulez. C'est livré chez vous, pas de souci. Par contre, pour les lecteurs, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas acheter de livres Kindle ni de musique sur l'application Amazon. Pourquoi ? Parce que c'est un produit digitalisé, donc du coup, ça tombe sous la loi des 30% d'Apple. Et donc, pour contourner ça, quand vous voulez acheter un livre, ils vous disent de passer soit par le navigateur, soit par un ordinateur, tout simplement. Parce que ni dans l'application Amazon, ni dans l'application Kindle, il est possible d'acheter des livres Kindle. C'est quand même assez fou. Et du coup, tout ça a mis en perspective les lois sur la concurrence, et l'Union européenne a statué comme quoi il fallait ouvrir les stores. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Epic, ils ont utilisé un de leurs comptes, qui était Epic Sweden, il me semble, pour justement ouvrir un store au sein d'un Epic Store, au sein de l'écosystème Apple, donc un store d'applications tierces qui échappe au contrôle d'Apple. Le problème, c'est que Apple, ils ont décidé que Epic Sweden n'était pas un partenaire fiable et donc de ne pas travailler avec eux. Donc on revenait en fait à cette histoire de « nous, c'est pas qu'on veut pas respecter l'Union européenne, c'est juste qu'on veut pas travailler avec certains développeurs qui ne sont pas de confiance ». Toujours en utilisant l'argument de « ils nous l'ont fait à l'envers en violant nos propres règles à notre insu en 2020 ». Le problème, c'est que l'Union européenne, elle voit ça d'un très 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 mauvais œil. En attendant, Apple, ils ont essayé de contacter Epic, mais ils ont été très agressifs avec Epic en leur disant, en leur proposant des trucs qui n'étaient pas forcément très avantageux. Et l'Union européenne, ils ont décrété que non. Sauf que les procédures Apple faisant des appels, etc., et même en se prenant des amendes, c'est toujours plus avantageux que de perdre que d'avoir un manque à gagner ou un précédent. Donc en fait, dans cette histoire, Apple clairement jouait la montre. Mais il y a quelque chose qui vient de tomber vraiment quelques minutes, je vais vous le mettre à l'écran. C'est Apple qui a rétabli le compte développeur de Epic, après que ça ait fait un tollé. Ce qui fait que Epic Games, maintenant, peut de nouveau avoir un compte développeur chez Apple et donc va pouvoir ouvrir leur store. Je pense qu'Apple, ils ont très, très, très mal joué la concurrence, enfin, sur ce dossier-là, parce que du coup, clairement, ils se sont attirés les foudres de l'Union européenne. En plus, ils essayent de contourner à tout prix cette injonction parce que maintenant, tout le monde va vouloir passer par des stores alternatifs pour éviter la taxe de 30%. C'est normal, Thibault.
Oui, mais attends, on est d'accord qu'il y a aussi l'histoire de chaque téléchargement dans un store alternatif, tu dois filer de l'argent à Apple.
Oui, mais beaucoup moins que les 30%.
Oui, mais au final, tu vois, je crois que rien que cette mesure-là fait que. Et c'est pour ça que tout le monde gueulait, c'est que tu fais un store alternatif, tu fais un produit gratuit. Imaginons, on va prendre un truc trop con, Spotify. Spotify, ils se mettent sur l'Epic Game
Oui, ça
Store.
c'est clairement l'exemple à prendre.
S'ils ont 50 millions d'utilisateurs sur iOS, j'en sais rien, je dis au pif, bah, ça veut dire que tu as 50 millions fois 3 centimes à payer à Apple. Tu vois?
Oui, mais ça encore, cette mesure-là, la FMA, donc l'autorité de concurrence européenne, elle trouve ça, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais le problème, c'est
Mais
que le
c'est
temps de
normal.
statuer,
Voilà,
eh ben
ça,
oui,
non, mais
parce
c'est
que
ça.
en fait, Apple, ils ne font que jouer la montre. Ils ne font que jouer la montre. Alors je remercie infiniment, vraiment, Florian Muller, qui est un spécialiste de ces questions-là, et avec qui j'ai longuement échangé au cours de la journée, qui m'a expliqué tout dans les détails. J'essaie de vulgariser au maximum pour pas que ça dure des heures. Mais moi, je lui ai posé une question fondamentale. J'ai dit, est-ce que... Deux questions. La première question, c'est est-ce que la mesure qui nous concerne actuellement... Que l'Union européenne, elle peut être globalisée. Ce à quoi Florian m'a répondu que ils vont certainement le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays vont sûrement suivre l'Union européenne là-dessus. Ça, c'est quasiment ils risquent de s'appuyer là-dessus puisqu'ils ont des cadres juridiques similaires. Aux États-Unis, c'est très compliqué parce qu'il y a une question de politique. Tout dépend le Sénat, s'il est démocrate, s'il est les démocrates sont contre en fait cette mesure-là, les républicains seraient plutôt pour. Donc voilà, il faudrait voir un petit peu comment ça se passe, mais ils pourraient ne pas y échapper dans le monde. Après, s'ils ont tous les marchés sauf le marché américain, c'est déjà une belle victoire. Et deuxième chose que j'ai posée comme question.
Surtout que, attends, s'ils ont tous les marchés
Oui,
sauf le
vas-y.
marché américain, on connaît la ligne directrice de toutes les politiques, que ce soit démocrate ou républicain aux États-Unis, à terme, ils vont s'y plier aussi.
Oui, bah.
Ils veulent plus de boîtes qui sont au-dessus des lois en termes de puissance,
Le
et tous les GAFAM le sont, donc.
problème, c'est que derrière, il y a enfin, pas pour
Il y a
faire
le
le
lobbying.
complotiste, tu vois, mais il y a du lobbying, il y a des qui
Oui.
finance qui, parce que si demain Apple y file un chèque de 10 milliards de dollars aux républicains en disant par contre, vous ne faites aucune loi qui va contre nous, je t'assure que les républicains, ils vont faire oui, monsieur, quoi, oui, maître,
Ouais,
oui,
mais alors
maître.
du coup, je suis d'accord, mais il y a aussi l'agenda politique qui est que déjà c'est plutôt les démocrates, parce que Apple, de son fondement même, on rappelle Tim Cook est
Oui, mais
homosexuel,
apparemment, là,
ils
c'est
sont
le...
anti-républicains, tu vois. Et en fait, s'ils font un deal avec les républicains, ils pourraient en fait perdre un peu leur crédibilité de boîte ouverte, puisque c'est une boîte californienne dans son pur jus, Apple, tu vois. Donc il y a aussi ça, il y a l'agenda politique, tu vois. L'agenda politique, c'est de dire que t'en as certains politiques qui disent, moi je me fais pas acheter par Google, Facebook, Microsoft ou Apple, et vous inquiétez pas parce que c'est ce que demandent en fait les gens, les électeurs, ils veulent en fait. Tu vois, c'est comme si là on savait que demain t'as Macron, il a signé un deal, mais j'ai vraiment un deal parce
Bon,
qu'en
bisous à
France,
Carole,
bon, tu vois, on
plaisir que tu
suppute
sois là.
un peu le truc, mais imagine demain t'apprends Macron a signé un deal avec, je sais pas moi, avec Renault, et du coup, bah. Genre, il y a une loi,
Non,
il y a écrit spécial
mais
Renault, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois.
je ne sais pas quelle est la transparence des lois de financement, mais je ne sais pas comment ça marche, mais il y a beaucoup des financements qui sont d'ordre privé. Je pense pas qu'on doit les déclarer
Oui, c'est
qui
ça. Non,
finance
mais
qui.
c'est exactement ça. C'est
Et
ce qui
donc, du coup,
permet l'opacité aux États-Unis là-dessus.
évidemment, donc si demain Tim Cook fait personnellement un chèque, une donation à Joe Biden ou à Donald Trump en disant par contre, vous ne suivez pas la réglementation de l'Union européenne concernant les lois antitrust, ça risque de bloquer. Mais globalement, le mouvement et la tendance fait qu'à terme, ça sera comme ça. La deuxième question que j'ai posée, qui est très importante, à mon sens, c'est est-ce que cette loi qui s'applique au téléphone portable, elle peut s'appliquer au PlayStation Store,
Bien
au
sûr.
Nintendo eShop, etc. Alors, Oui et non. C'est-à-dire que la réponse de Florian, qui est donc spécialiste dans toutes ces questions, un des plus grands spécialistes au monde de ces questions-là, c'est que le problème, c'est que le téléphone, c'est très différent. Le téléphone, c'est une partie de notre vie où on a des applications très différentes. Tu peux avoir ta banque, tu peux avoir des jeux, tu peux avoir des emails, d'un navigateur internet, enfin, c'est quelque chose de très différent. Et la console a une utilisation vraiment spécifique. Donc, il y a très peu de possibilités de se diversifier. Donc en fait, ces questions-là pourraient être, cette nuance-là pourrait avoir une sorte de bulle protectionniste autour des consoliers. C'est sûr que demain, Sony, tu leur dis, Nintendo, tu leur dis, il y a un store alternatif, tu mets en danger, limite financièrement, ces boîtes qui comptent énormément sur...
Alors, justement, j'allais dire, s'il y a ça qui se met en place sur les consoles, Microsoft, c'est pas ils s'en foutent, c'est qu'à long terme, ils se veulent avec l'abonnement, donc en fait, c'est pas tant ça qui va les déranger. Nintendo, oui, ils font de l'argent dessus, mais en réalité, l'essentiel des revenus de Nintendo, c'est sur leur production à eux et sur leur service, parce que Nintendo Switch Online, maintenant, ils rapportent quand même pas mal d'argent.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et les jeux Nintendo rapportent de l'argent, tu vois. Donc au final, Nintendo serait pas tant impacté que ça. Et c'est plutôt Sony en
Par
fait
contre,
qui serait dans la merde.
Sony, oui. Alors, Florent me dit que les consoles, ça serait économiquement pas possible pour le moment sans les 30% de commission, parce que les consoles elles-mêmes génèrent plus de pertes que de profits au cours de leur durée de vie. Et même quand ils font du profit, c'est très minimal, là où les téléphones, d'eux-mêmes, déjà, ils font de l'argent. La vente de, donc,
Bien sûr.
pour l'instant, c'est compliqué. Mais c'est pas à exclure à terme. C'est pas à exclure à terme que quelqu'un dise, attendez, moi, il y a 160, actuellement, il y a 170 millions de PlayStation 4 et 5 qui partagent une grande partie de leur store qui sont sur le marché. Moi, j'aimerais bien participer aussi à ce marché, mais 30% de commission, c'est trop. Et on pourrait se pencher sur la question. Mais évidemment, ça peut mettre en danger l'économie. Donc là, actuellement, le fait que Apple ait de nouveau autorisé le compte
Épique, développeur
d'Epic,
d'Epique.
ça va permettre d'avoir un Epic Store. Donc certainement, ça va permettre le retour de Fortnite, mais également peut-être de Rocket League Sideswap, de pas mal de choses, et d'avoir l'écosystème de chez Epic et de Fortnite qui se développe au sein de l'Apple Store sans avoir les contraintes. Maintenant, voilà, faut voir un petit peu comment ça évolue, mais voilà. Et oui, Microsoft, évidemment. Microsoft, le Game Pass va être officiellement, et GeForce Now vont être officiellement des applications sur iOS. Et c'est cool. Et j'espère même qu'on va pouvoir avoir le Game Pass. Ça serait le rêve d'avoir Game Pass et GeForce Now sur Apple TV. Ça serait vraiment le pied
Mais le
absolu.
Game Pass, d'après la déclaration de Sarah Bonne, tant qu'il y a l'histoire des centimes à payer à Apple sur un store tierce, c'est niette. Ils vont devoir attendre que ça statue. Donc si ça met des procédures, ça met encore 1 an, 2 ans,
Ouais, mais
trois ans.
enfin, le problème, c'est que oui et non. C'est-à-dire que à Sarah Bond, le problème, c'est que tu peux très bien acheter ton jeu sur ta console et après, c'est quoi? C'est le téléchargement de l'application qui va être taxé?
Oui, totalement. C'est
Le
ça le souci.
téléchargement du store, en fait?
Ben, du store et de l'application, les deux. Donc c'est pour ça en
Parce que le
fait
problème, c'est
que.
que si Microsoft, c'est une application à part Xcloud, dans lequel tu ne fais que
Mais
jouer à des jeux dans le
tu sais que
cloud.
ce qui est terrible en fait, c'est qu'actuellement t'as une application xCloud sur iOS. C'est une
Oui,
application
c'est une
web.
web app.
Et ça, Apple est en train de se débrouiller pour les interdire.
Non, non,
Officiel.
ils ont fait machine arrière là-dessus.
Ah bon? Bah c'est hyper
Ça,
récent alors.
en fait, c'était le cas dans la bêta de iOS, la bêta 2 de iOS 17.4. Les web apps ne fonctionnaient plus correctement. Ils ont fait machine arrière. Je pense qu'ils sont bloqués. Actuellement, le problème, c'est que comment tu veux taxer, tu taxes comment xCloud qui font des jeux en quad que moi je mets xCloud sur mon iPhone. Comment tu me prends quel argent en fait, ou à moi ou au développeur?
Au
C'est
développeur,
pas
c'est au développeur,
possible.
c'est pas à toi, hein,
Ouais,
c'est au développeur.
mais pourquoi ils prennent de l'argent à
Parce
cette
que c'est leur
application et pas une
écosystème.
autre?
Bah, toutes les applis, en fait.
Maintenant,
En fait,
toutes les applis vont être taxées.
toutes les applis, sauf celles de l'App Store, où dans ce cas-là, ils taxent 30%
Mais
des revenus.
ils vont être obligés d'être dans l'App Store.
Qui ça?
Enfin, et tu crois que donc ah oui, tu penses que xCloud ils pourront pas intégrer l'App Store
Mais.
officiel?
Ah oui, bah non. Dans l'App Store officiel, Apple va dire, voilà, nous, on a notre store, c'est ça. Vu que maintenant on a le droit de faire. Enfin, il y a des concurrents qui vont exister sur des stores iOS. Il y aura par exemple l'Epic Game Store ou le Microsoft Store. Mais toutes les applications par le Microsoft Store et l'Epic Game Store, comme ils vont tourner sur iOS 17.4 qui appartiennent à Apple, ils vont taxer là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, le merdier, c'est que si jamais la justice statue que n'importe qui peut utiliser n'importe quel store, pour moi, ça implicite que Apple n'a pas à fourrer son nez sur le store des autres, tu vois.
Oui, mais après, c'est une façon à eux peut-être de préserver un petit peu une
Il se
rentabilité
justifie.
économique.
Ah non, j'allais dire, il se justifie sur la sécurité. Et c'est pour ça qu'il disait que
Et là,
les
mais
web
ça, ils ont
applications.
raison. Là, pour la sécurité,
Non.
personnellement, je leur donne raison, quoi.
Non. Moi, je leur donne pas raison. Sur
Ah
un
ben si.
Windows. Non. Ben, on n'est plus dans les années 80. La sécurité, il y a eu l'histoire de. T'as vu, t'as suivi les histoires de Pegasus, là, il y a quelques mois ou pas?
Pegasus, sur le second, non.
Tu recevais un coup de fil d'un mec sur WhatsApp. Même sans décrocher ou quoi, le mec, il infiltrait ton téléphone grâce à une faille.
Ok.
Après, le problème, enfin, le souci, c'est que cette histoire, c'était surtout pour les mecs hyper importants, genre les hommes politiques, les hommes d'affaires, les superstars, machin. Et c'est comme
Allô?
ça que.
C'est François Hollande. Qu'est-ce que c'est que ce numéro?
Hein?
Là, je faisais une imitation de François Hollande.
Ok, mais
Bonjour,
non.
c'est
Et donc, du
François
coup.
Hollande.
Et Apple, du coup, ils étaient en colère quand ils ont appris cette histoire, parce que tu sais, c'est sorti dans la presse, ça a fait scandale. Parce qu'en fait, eux, ils garantissent la sécurité à leurs usagers et tout, et au final, on se rend compte que, bah. Les mecs, s'ils veulent vraiment te prendre leurs données, enfin, il y a des méthodes
Oui, il y a des méthodes.
qui
Après,
existent.
bon,
Ah oui.
je peux comprendre aussi. Peut-être qu'il y aurait, ça serait bien qu'il y ait un, tu vois, que qu'il ménage la chèvre et le chou, qu'il y ait un processus de validation, et puis d'un autre côté.
Mais tu vois, par exemple, Windows, il y a le Microsoft Store sur Windows. Je sais que tu es allergique au
Ouais.
PC, toi. Mais sur Windows,
Non, je suis
maintenant,
pas allergique, mais bon.
t'as le Microsoft Store qui est dispo. Et demain, tu as envie de télécharger n'importe. Bah, tu vois, typiquement, l'Epic Game Store, Steam, c'est des concurrents. Pour le gaming au Microsoft Store. Tu vois? Donc, si demain tu télécharges l'Epic Game Store sur ton iPhone, qu'il y a un souci avec une application, c'est avec Epic qu'il faut voir le souci. C'est qu'Epic aura validé une application qui sera un scam ou qui aura des virus, tu vois?
Ouais, bien sûr, mais après
Mais de
c'est pas
dire
bon pour
l'application du
l'image de
store
marque.
Epic Game, c'est mauvais pour toi, d'ailleurs, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont dire attention, de base, à mon avis, ils vont verrouiller l'iPhone. Et comme sur les Mac, tu sais, pour télécharger des autres
Oui,
logiciels sur ton
oui,
Mac,
oui,
tu
oui.
dois valider le fait, et ils te disent,
Bien sûr.
attention, le programme, il peut y avoir des soucis via la sécurité, enfin, ils te font un peu peur.
Ouais, c'est galère de faire des trucs. Après, ce qui est bien, c'est que le WebKit maintenant, t'as vu ça aussi dans 17.4, c'est que le web, tous les navigateurs internet. Tourner avec le WebKit Safari sur l'iPhone.
Oui, mais
Tous.
c'est
Et
justement ça.
maintenant, c'est plus obligatoire. Donc, par exemple, tu vois, par exemple, pour xCloud notamment, ou GeForce Now, bah, au pire des cas, une web app qui tourne sur le WebKit de Chrome, ça peut potentiellement être suffisant, tu vois, pour contourner tout, en fait.
Mais c'est ça, justement, parce que moi j'étais encore resté à l'info où Apple, du coup, avait bloqué, parce qu'il savait justement qu'il allait avoir d'autres personnes qui allaient justement proposer des web apps et tout. Et pour verrouiller le truc et forcer en fait le passage à l'App Store, ils avaient dit non, comme justement on doit se mettre au niveau et ne que ce soit plus Safari, on verrouille tous les trucs.
Alors
Et du coup,
finalement, Apple
il y avait des gens
conservera
qui
les
avaient
web
dit
apps sur les iPhones
ouais.
européens.
Ah, uniquement européen, donc ça veut dire qu'à
Pour
l'échelle
l'instant,
mondiale.
oui. Pour l'instant, oui. Mais
Donc à
bon, ça va
l'échelle mondiale,
suivre.
c'est pas possible. Oui, mais si ça va suivre, oui et non, ça je suis pas sûr pour le coup. Parce que iOS, c'est un écosystème fermé. Donc s'ils veulent interdire les web apps, ils interdisent les web apps. Et le
Ouais.
souci qu'on a, tu vois, le souci qu'on a vraiment sur Internet au global, c'est que tout est sur Chromium quasiment, qui est un dérivé de Chrome. Hein, et que petit à petit, notamment tout ce qui va être Adblock et compagnie, Google, en fait, fait une guerre contre ça. Et à terme, en fait, on n'aura plus le choix. Tu vois? Tout sera adapté de Chrome quasiment. Donc, on n'aura plus les Adblock, les uBlock Origin, les VPN, tout ça en fait. Tous les trucs qui font qu'on garantit notre neutralité d'Internet.
Ouais, notre neutralité,
En
ouais.
fait, Google va avoir tellement de force dans les rapports de force que s'ils veulent te faire bouffer de la pub ciblée avec tes usages liés à ton téléphone, parce qu'ils auront, grâce à leur navigateur, à la base source, ils pourront. Et ça, c'est dramatique, tu vois.
Ouais. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, notamment ce qui concerne le jeu vidéo. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, puisqu'on a des impératifs. C'est 20h ou 20h30 ce soir?
20h30 au plus tard.
Ok, parfait. Donc ça nous laisse une petite heure pour nous préparer. On fait un truc dont on vous dit pas ce que c'est, qui vous regarde pas, mais qui est très cool. Et voilà. Oussine, merci beaucoup, Oussine, coach sportif qui fait aussi du streaming, qui me donne beaucoup de conseils dans le sport. et que j'aimerais bien recevoir un jour. Il faudrait qu'on trouve un moyen de recevoir Oussine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on se retrouve donc, pour ceux qui auraient
Dimanche.
manqué, dimanche, là, le grand clash entre Mehdi, Nico, tu vas faire dodo en RTX avec puissance ambulance, et Nico qui réplique, une chambre pour critique, se mettez une Switch sans OLED, merci. Voilà, est-ce que la puissance est nécessaire dans le jeu vidéo? On va vraiment avoir un super débat dimanche soir à 21h sur la chaîne des Chers Players. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous, portez-vous bien. La santé, et c'est le plus important. Et merci encore à ceux qui étaient là ce soir. Merci beaucoup pour l'hommage à Toriyama. Salut à
Salut le
tous,
chat.
ciao ciao!